écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 13 novembre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la journée de la gentillesse que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Il y avait le flic qui avait un flingue, mais on lui démontre que le flingue ça sert à rien, que c'est bien la philosophie des arts martiaux et tout. Ouais, vous avez raison, vous êtes mes potes et tout.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Le running gag est très 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 mauvais, je le confesse, c'est une catastrophe et tout, mais bon... C'est la journée de la gentillesse, que voulez-vous ? Bonjour et bienvenue, j'espère que ça se passe bien. Vous avez vu qu'on a enfin le retour du beau temps, mais je crois qu'on est en automne, donc c'est normal qu'il souffle et qu'il pleuve beaucoup et qu'il vente et que tout ça. Et du coup, eh ben, les feuilles s'envolent, et c'est le cas de le dire, puisque en librairie, c'est carrément l'avalanche de sorties en bande dessinée, et on essaie de limiter quand même nos chroniques, parce que sinon... on s'en sortirait absolument pas. Je vous laisse imaginer le bazar. Ceci dit... vous savez que le Supplément Week-end est une émission d'investigation et tout le monde bruisse, enfin le monde du net, le monde des fans, le monde de la musique et tout ça. Les médias bruissent en disant « Non mais dans Breaking News, en fait Michael Jackson, c'est pas la voix de Michael Jackson. Thomas, s'il te plaît, peux-tu nous donner les conclusions de ton enquête scientifique là-dessus ?»
Moi je suis un peu emmerdé en fait, parce que moi j'ai fait mon enquête, mais moi je comprends pas hein, tout le battage qu'il y a sur le net, parce que moi j'ai vérifié, mais il n'y a pas Michael Jackson dans Breaking News, hein. Il y a Richie Jen, Nicky Chung, Kelly Chen, bon il y a Johnny To aux manettes, mais il n'y a pas Michael Jackson hein, dedans. Je sais pas pour vous, mais...
Bon, bah, dans ce cas-là, voilà, l'affaire est close. Point de vue agenda, avant de commencer sérieusement... Avant de commencer les chroniques de l'émission, sachez donc que mardi 23 novembre, ça y est, dans 10 jours, à la librairie JBR Rayon Manga, et ben Benjamin sera là pour son Savior qui est sorti chez Chiaopan, dont on a chroniqué le bouquin il y a
un mois
à peu près, qui sera aussi présent le week-end suivant au TGS, au Toulouse Game Show, qui aura lieu à la Diagora, à la Beige, pardon. Avec entre autres invités, s'il vous plaît, et ben il y aura Shinji Hashimoto de Square Enix, Richard Hasht de Battlestar Galactica. Non mais tu as pas le bon micro, je t'ai dit le jaune. Tu m'énerves, je te l'ai dit 4 fois.
C'est vrai en plus.
Je te l'ai dit 4 fois.
Prends le micro Pikachu. Oh
Richard Hatch, prononce après moi. Richard Hatch.
Et dans plutôt comment il s'appelle l'enquêteur?
Plutôt?
Non.
Gezich, après moi.
Bon, allez, Battlestar Galactica, attention, je parle bien de la série des années 70, pas celle qui a été refaite par la chaîne Syfy.
Fin des années 70.
Début années 80 même, puisque ça a continué après. Peter Williams de Stargate SG1, mais il y aura aussi Bernard Minet, la Flanders Company, Noob, Nerds, et d'ailleurs les trois lancent leur nouvelle saison et leur coffret DVD de la saison précédente en ce moment.
Ouais.
Il y aura une projection de Evangelion 2.22, puisque c'est le film qui est un remake, je vais dire, non pas franchement un remake, mais une version revisitée.
C'est une sorte de pot-pourri, version améliorée avec nouveaux effets spéciaux, mais qui est quand même un pot-pourri et en même temps un remake, mais c'est pas vraiment ça, donc voilà.
C'est l'avantage du dessin, c'est que les acteurs ils vieillissent pas trop, et pourvu que les cellulos soient bien conservés, on peut les réutiliser.
Mm. Donc il sera projeté dans le festival, donc ce sera pas du tout une projection dans un cinéma associé au festival, ce sera dans l'enceinte du festival, dans une salle de diffusion de films.
Il va avoir du monde.
Ouais, surtout que ceux qui veulent venir que pour le film, et j'en connais, il faudra qu'ils achètent leur passe pour le festival.
Et accessoirement, il y aura aussi un organisé par par l'association franco-japonaise. Il y aura un mini salon consacré en fait aux activités professionnelles au Japon, c'est-à-dire la possibilité pour des Français soit de faire du commerce au Japon, soit d'aller travailler au Japon, soit de travailler pour une entreprise japonaise. Alors moi je demande à voir, l'initiative est plus que louable et à mon avis plus qu'intéressante. Seulement si c'est ouvert au public du TGS, ça veut dire donc qu'on va avoir des gens qui vont être cosplayés, qui vont se mêler à des hommes d'affaires et tout ça. Je demande d'avoir quand même un Pikachu qui se renseigne sur la possibilité d'avoir un Alien Certificate face à des représentants de grosses boîtes japonaises. Ça peut être très fun, ça peut être rigolo, donc on attend de voir. C'est le 27 et 28 novembre au TGS.
Et oui, donc tu avais commencé ton intervention en parlant de Benjamin qui sera Gilbert Joseph et qui serait ensuite au TGS. Il faut aussi mentionner que Benjamin sera également au salon de BD de Colomiers, où il y aura un éclairage particulier sur Chiaopan.
Ah, d'accord, voilà. Ok. Bon, bah ça, je le savais pas. Et je suis désolé.
Je suis incapable de donner les dates du festival car je ne les ai pas notées.
Je dois dire qu'il se refuse même de nous donner les informations. Donc là-dessus, on ne peut absolument pas vous renseigner. Voilà. Radio FMR a refait son site web. Pour toutes les infos, allez sur supplementweekend.fr. On vous donnera le lien vers Radio FMR.
T'as l'air désolé quand tu dis ça. Je le vois complètement désolé là.
Non, il est beau, il est lisible, il est beaucoup mieux foutu pour l'instant. Il est un petit peu vite puisqu'il faut, faire la migration de tout le contenu et il y a vraiment des choses qui sont bien dedans. Et en plus, bon, maintenant on peut intégrer la vidéo et tout le reste. Pour ce qui est de l'état de l'art, bon, c'est pas trop mal, mais alors faut pas regarder le code générique. Mais après, c'est clair que c'est un léger mieux parce que les tout petits caractères en blanc sur fond noir. Il y avait de quoi vous rendre myope, hein, Bruce. Et on parlait de Chiaopan, et ben justement, hasard de l'actualité, on va parler de Maruta 454 qui est sorti aux éditions Chiaopan, scénarisé par Paul-Yannick Lacquer et dessiné par Pastor. Donc Paul-Yannick Lacquer est un Québécois. Et Pastor, donc, est un dessinateur chinois qui est issu du studio de Song Yang, dont on a plusieurs fois parlé dans cette émission. Et je ne sais pas si... je crois que même du sport n'était pas né. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 1931, quand le Japon a envahi la Mandchourie, le nord de la Chine, après un attentat simulé contre une voie de chemin de fer. C'est un épisode qui fut...
C'est dans Tintin.
Exactement, j'allais y venir. Merci de me griller le prompteur dans Tintin et le Lotus Bleu.
Trop bon.
À la fin de cet album, Hergé raconte justement que le Japon quitte la Société des Nations et toute la sphère occidentale disait alors, dans l'album, bien fait pour eux. À partir de là, aucune autre nation ne se préoccupe du sort des Chinois. Si vous avez vu le film Le Dernier Empereur, vous vous souvenez qu'après avoir envahi le nord de la Chine, l'armée japonaise a constitué un état fantoche, la Mandchourie, en donnant à Puyi un rôle purement symbolique, Puyi étant le fameux Dernier Empereur. Ce que vous savez sûrement moins, c'est que le Japon, qui occupait déjà la Corée depuis 1905, y avait étendu ses champs d'expérimentation absolument effroyables et inhumains. L'histoire commence par une rafle de l'armée occupante dans un village, sous prétexte de recruter de la main-d'œuvre. Zi Yang est un potier qui ne sait pas encore qu'en étant recruté par les Japonais, il a bien peu de chances de revoir sa femme et sa fille. Zi Yang arrive dans le camp de Zongma. Il est dépouillé de son identité et doit désormais s'appeler Maruta, cobaye, et son numéro de matricule 454. Maruta 454 raconte les horreurs, les exactions, un massacre organisé par les Japonais en territoire chinois, mais sur lequel il n'y a eu aucun procès, et où d'ailleurs le gouvernement américain a fait masquer les crimes. Des expériences du même niveau que ceux que mèneront 6 ans plus tard, puisqu'on est en 1934, les nazis dans leur camp de la mort. Tests de résistance au froid, à la ponction du sang, aux maladies, aux gaz de combat, au feu, ou encore mannequins d'entraînement vivants pour les chirurgiens. Mais en plus, ces prisonniers servent aussi à la confection d'armes biologiques, dont le Japon sera l'unique utilisateur pendant la Seconde Guerre mondiale. On fait pulluler des puces sur les hommes pour ensuite les contaminer avec la peste afin de contaminer les populations des provinces qui allaient être conquises. Bref, On est en 1934, comme je l'ai dit, et on est déjà au cœur de l'horreur avant que l'Allemagne nazie ne commence à mettre en marche sa solution finale. Ziyang réussira à s'en échapper. Son groupe fut l'un des très rares à avoir survécu au camp de Zhongba. Et les tortionnaires japonais ne furent jamais poursuivis. Certains d'entre eux eurent même une bonne carrière civile après 1945. Contrairement à l'Allemagne, ces horreurs n'ont jamais été reconnues officiellement par le gouvernement japonais après 1945. Et ils sont encore source de conflits et de rancœurs avec la Chine, Taïwan et les deux Corées. La quasi-absence de témoignages directs, le nettoyage à la dynamite et surtout la complicité à cette omerta de l'occupant américain font que l'histoire est très peu connue. Pastor est l'un des poulains prometteurs de Song Yang, et cela se voit. Il s'est mis à travailler exclusivement au numérique, il travaille des effets de matière afin d'en souligner l'ambiance. Quant à Paul-Yannick Laquer, son expérience de journaliste pour de nombreuses revues consacrées à la Seconde Guerre mondiale ne font pas douter quant à l'exactitude des événements qu'il y raconte. Si le bouquin ne manque pas de qualité, il a néanmoins un très grand défaut. Beaucoup de mots chinois ou japonais sont écrits dans les dialogues, et le lexique en fin de livre oblige à d'incessants allers-retours, ce qui casse complètement le rythme de lecture. C'est d'autant plus dommage que justement, la moitié des termes utilisés y ont une présence finalement gratuite. Paul-Yannick Laquer et Pastor, Maruta 454, c'est chez Chiaopan. Écoutez le supplément week-end sur Radio FMR et il est midi et 13 minutes pile poil. Et on va entamer du breakbeat.
Je disais wikiwa, wiki wikiwa.
Avec Jocelyn Azorin Lara, Eric Véchy au scénario et les dessins de Andri et Matt. Ça s'appelle Brick. Le tome 1 s'appelle Battle et ça vient de sortir dans la collection chez 12 bis édition en format auteur comics. C'est un format un petit peu cahier d'école. Et j'ai pas la bonne voix pour faire le résumé. Excusez-moi. Alors je vais prendre ma voix à couilles. On a un effet pour ça.
Dans de multiples combats sacrés et mystiques qui opposent les hommes uniquement dans le but de se foutre de grosses beignes dans la gueule, le smurf, le breakdance et le hip-hop sont des âmes terribles nanties d'une puissante magie.
Ça fait un peu Bernard Laporte, un peu, non ?
Poursuivi par la SS, la section 7, Malik, l'un de ses combattants de l'ombre, se réfugie dans un camion à ramen chez Léa. Cette fille de 15 ans qui vivait jusque-là avec son oncle ne se doutait pas qu'elle aussi venait d'entrer dans cette guerre secrète. Où quand la danse s'arrête, c'est que les coups de poing sont renforcés avec de la magie bien lestée. Désormais porteuse de la casquette magique de Malik, est-ce que Léa va se découvrir de nouveaux pouvoirs plus impressionnants que son art de la douille ?
Oui, elle fait des ramen. Donc...
Pas faire de faute.
Non mais j'aurais pu aussi le faire avec cette voix. Mais je crois qu'à la fin les gens n'auraient rien compris.
Et t'aurais pas tenu la distance.
Ouais, j'ai un peu la voix blanche là ce matin, c'est pas la joie. Graphiquement, bon, on sent que les dessinateurs ont envie d'aller au-delà de cette expérience. Et c'est pas pour rien, c'est des gens que vous connaissez. Puisque si leur style graphiquement vous rappelle quelque chose, c'est que vous avez quelque part des fanzines de Necomix. Et oui, c'est eux. Nécomics est un collectif qui est actif depuis près de 10 ans. D'ailleurs, vous les connaissez sûrement pour leur t-shirt avec leur chat très stylisé. Voilà, la gamme Nécowear. J'hésitais de...
il fallait pas le dire.
Voilà. Un chat...
Il faut créer des concurrents. Alors,
un minou très stylisé, très stone aussi. C'est facile. Geekstyle et tetires.fr. Hein, voilà.
Voilà.
C'est nos fournisseurs. Jocelyn Azorin Lara est un des fondateurs et il avait monté un studio graphique professionnel appelé Nekome. C'est eux qui, justement, font le design graphique pour la gamme de t-shirts. Alors, sur l'histoire, l'idée est assez marrante, mais elle reste à travailler et l'intrigue met du temps à se dévoiler. Mais l'album permet de se passer du bon temps et permet de faire découvrir les auteurs à un public qui ne lit habituellement pas des fanzines. C'est un petit peu dommage puisqu'ils avaient fait un spécial, il y a eu un Nécomics spécial charme d'ailleurs, dans lequel Boulet avait fait d'excellentes planches, mais pas que lui, puisqu'il y avait aussi Luna Rousse et plein d'autres auteurs. Donc, allez, c'est fun, c'est amusant, ça n'a pas pété très haut, mais je veux dire que pour les 12-16 ans, c'est idéal, c'est parfait, c'est très bien et ça leur plaira beaucoup. Break, le tome 1 s'appelle Battle, c'est de Jocelyn Azorin, Lara et Eric Véchy au scénario, et dessiné par Andri et Mad et séché 12 bis édition.
Et maintenant, on enquille avec une île mystérieuse et paradisiaque qui s'appelle l'île de l'Orose. L'île de l'Orose est dessinée, écrite et scénarisée par Toshi, et c'est chez Ankama, c'est un artiste maison. Et donc, nous avons affaire aujourd'hui à une flopée de bras cassés qui se sont rencontrés par hasard et qui se trouvent embringués à la recherche de la mystérieuse donc île de l'Orose. Un yop super bourrin, une sadida virée un peu costaud, virée par les siens pour des motifs obscurs, un chien-chien fantôme et un sacrière un peu précieux. Alors, ici dans cette BD, nous avons une enquimement de baston, de grosses baffes. Si je vous dis, des interactions sympas entre les personnages, comme une créature, une petite créature chiante qui a le sens de la vanne, un bourrin qui a toujours faim, une nana boulée, une fiotte qui s'évanouit pour un rien, des victimes innocentes dégommées gratos, ça vous fait penser à... Merci, Nahalbuck, chez Wakfu.
Oh merde, oui.
Baston! Voilà, donc nous avons donc une transposition de Nahalbuck sur dans l'univers de Wakfu. Alors c'est marrant parce que au début, quand vous avez sur la page de garde, il y a un mosquito qui dit « Je vous préviens, la fin est naze ». Et à la fin, il dit « Venez pas vous plaindre, je vous avais prévenu ». Donc du sport, si tu veux jeter un œil. Voilà. Donc ce qu'il y a de rigolo dans cette BD, c'est que le graphisme est assez béton. On retrouve un petit peu un graphisme on peut trouver dans l'underground américain, un petit peu en noir et blanc, sur du papier.
Je pensais vraiment à ça. Hein.
Ouais, sur du papier un peu jauni qui est pas du papier glacé, c'est papier un peu à grains. C'est vraiment une grosse blague. Hein, donc vous lisez la BD. Disons que graphiquement ça c'est costaud, les personnages sont sympas, c'est pas de la grande bande dessinée, mais voilà, ça vous fera passer un bon moment avec des personnages tous très cons et des enquimements de situations qui enfilent un petit peu les anecdotes un peu rigolotes et les moments de gloire très bourrines. Voilà, donc si vous aimez un peu l'Heroic Fantasy, pas l'Heroic Fantasy, mais plutôt de l'aventure décalée, c'est une quête un peu rigolote et un peu décalée, c'est vraiment une bande de losers. Donc l'île de l'Orose par Toshi chez Ankama, voilà, c'est fun.
Non, mais à première vue, on dirait vraiment que c'est un hommage à tu sais, de Little Miss Anifani de Will Eisner, quoi, qui était publié dans
oula,
Mad.
Oula, oula, oula.
Dans Mad, c'est vraiment un petit peu le même style, et avec les personnages un peu zarbi et tout, les filles dévêtues et tout, tu vois, c'est... vraiment, ça fait penser à ça, quoi, justement. C'est pour ça que ça m'intéresse, là.
Ah.
dans un monde où les super...
Oh, mais ça va, ok, j'ai compris, j'arrête avec ma voix de basse et tout.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Allez. Et alors ?
Non, mais profite-en, je suis au ralenti, là, donc je mixe comme une merde, tu peux y aller. Hein.
Dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'il ne dépasse pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français et de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux.
Presque parfait.
Ça tombe bien, puisqu'il lutte contre la force la plus dangereuse de la Terre. Les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés et certains parfois doivent dégager. Et c'est là qu'interviennent nos petits gars. Il est là, dans mes mains.
Ah, le nouveau The Boys.
Le nouveau The Boys, numéro 8.
Déjà.
Qui se nomme Hérogasme. Non bizarre.
Enfin, enfin.
Alors déjà, il est un peu plus épais que les autres. De plus... Si ça ne se remarque pas à prime abord, vu que niveau de la couverture, bah, ça reste toujours la même chose, il n'y a pas de problème, d'Arik Robertson. Par contre, à l'intérieur, bah, tu l'as feuilleté, t'as pas vu la différence en fait.
J'ai c'est... vu surtout la scène de partout dans le jacuzzi.
Bien sûr, tu m'étonnes. C'est John McCree qui dessine à présent, c'est toujours Garth Ennis bien entendu au scénario, mais c'est, on va dire, un petit peu un intermède, c'est un petit peu des vacances. Et dans l'histoire, également
pour les auteurs,
pour
ils les sont auteurs.
Pour Darryl Robertson.
Et en plus, ils en profitent pour revisiter, enfin vite fait, l'exercice de style du crossover, qui consiste à réunir plein de super-héros qui normalement ont pas leurs aventures dans les mêmes comics et tout, de mettre dans des comics différents et puis de temps en temps les met ensemble et tout. Contre une menace commune. Et bon, en fait, c'est ce qui arrive au début, mais c'est carrément du pipeau, hein. C'est-à-dire que bon, bah, ok, tous les groupes de super qui ont des super pouvoirs de super héros qu'on a l'habitude de voir dans les Boys, c'est-à-dire les Sept, les Revengeurs, les Suprêmes, les petites teignes, tous ceux qu'on a vus depuis le début, depuis le numéro 1 de The Boys, ils se réunissent. Et bon, il y a un grand laïus comme quoi, ouais, il y a une menace extraterrestre, donc il faut que tout l'ensemble des forces de super-héros de la Terre se réunissent pour aller combattre les aliens. Et en fait, c'est du pipeau, c'est juste parce que ils vont prendre des vacances chaque année, à une certaine période, ils prennent des vacances, ils louent une île complète et tout dans le Pacifique.
Oui, il y a moins de danger.
Super complexe, hôtelier, piscine, enfin tout ce que tu veux. Et bon, pendant 2-3 jours, ils font la teuf et tout. Alors bon.
Et l'année
orgie,
suivante, ils en loueront une autre.
Tout ce que tu veux. Et à la fin, il y a même une espèce de cérémonie comme les Oscars, si tu veux, quand ils réunissent, où ils donnent carrément des petites statuettes aux héros le plus méritant, un Oscar pour l'ensemble, enfin un award pour l'ensemble de son œuvre et tout, à des super-héros, la prochaine équipe de super-héros en devenir, enfin bon, tu vois, calqué sur les différentes cérémonies de remerciements, cérémonies de remise de prix de l'industrie du cinéma, de la télé, enfin tout ça. Et là-dedans vient se glisser, bien entendu, une intrigue qui concerne bah, nos petits gars de la CIA, les 5, et qui vont foutre un petit peu le bordel, mais surtout qui vont s'attarder à regarder ce qui se passe au niveau de la puissance qui gouverne un petit peu, qui essaye de prendre la main sur le monde et sur les agissements des super-héros, à savoir la fameuse compagnie Vought American. Alors bon, quelques vannes bien senties contre l'industrie du comics, contre la façon qu'ont les éditeurs de balancer du comics ou de censurer du comics. Il y a également une vue très radicale en ce qui concerne eh bien, la fonction de président des États-Unis, vice-président des États-Unis. Et là, ça marche très très fort. Enfin bref, c'est un The Boy conseiller, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Le graphisme, alors il est complètement. Enfin, John McCree dessine complètement différemment, on va dire, de Darryl Robertson, qui a un trait un petit peu plus, on va dire, classique, plus roots, moins travaillé, un petit peu plus sale, on va dire, un petit peu. Alors que celui de John McCree est quand même un petit peu plus net, un petit peu plus léché. Enfin bon, on pourrait croire que. À la limite, c'est fabriqué sur palette graphique. J'en sais rien, je suis pas assez technicien pour le dire. Alors que Darick Robertson, lui, ça fait plus penser à un dessin fin à la main et tout. On se dit plus, c'est de l'authentique et tout. Ça n'enlève en rien à la qualité de l'histoire. Ça n'enlève en rien. Les personnages sont reproduits à Billy Butcher. C'est le même, donc il n'y a pas beaucoup de différence. On se laisse bluffer quand même. Et John McCree, c'est pas un inconnu de toute façon, parce que John McCree, c'est quand même le mec qui bossait dans la boîte où Garth Ennis a commencé à se faire connaître, c'est-à-dire ce journal anglais 2000 AD qui a formé et qui a fait connaître Alan Moore également, tous les Anglais, tous les grands Britons.
Le métal hurlant anglais.
Voilà, c'est ça. Et John McCree, c'est lui qui a connu quand il était à 2000 AD et qui bossait sur Judge Dredd, un petit jeune de 18 ans qui s'appelait Garth Ennis. Et puis donc, ils sont un petit peu renvoyés la paille quand Garth Ennis est parti aux États-Unis, qui s'est occupé de... Il a créé The Preacher, John McCree a également décidé quelques trucs de The Preacher. McCree également a travaillé avec des compagnies américaines. On le retrouve là avec Garth Ennis pour The Boys. Mais ça passe vraiment très très bien, il n'y a pas du tout de différence. Il y a une différence, elle est nette, mais disons ça enlève en rien la qualité de l'aventure, la qualité de l'image et tout. On se retrouve quand même, il respecte quand même un univers visuel qui est déjà imposé depuis les 7 premiers numéros. Ça le fait vraiment très très bien. C'est The Boys donc de Garth Ennis et John McCree, donc dont je viens de parler, le numéro 8, le tome 8, Hérogasme. Alors comme il est un petit peu plus épais, un tout petit peu plus cher, allez, 2€ de plus que ce que vous payez d'habitude, hein, c'est vraiment pas la mer à boire. The Boys numéro 8, Hérogasme.
Et on va passer à la littérature, je pense. Hein. On fait un petit break là pour
toi. Attends, je vois un coup là.
Je tiens à signaler pour nos amis qui auraient des oreilles chastes, quand du sport parle de boire un coup, je parle bien sûr d'une bouteille de rouge en eau gazeuse. Des fois, il lit des livres sans images et ça s'appelle des polars.
Mais pas que. Merci Thomas. Ouais, mais pas que. Ça dépend, j'ai des périodes pour les polars, tu vois. C'est vite dit, si je veux être méchant, quoi.
Il est question d'enquête policière, quand même.
Oui, il est question d'enquête policière. Retour en arrière. Death Note, vous connaissez quand même, hein, le manga fameux qui est sorti de 2003 à 2006 chez nos amis nippons, et un petit peu plus tard chez nous. Donc, prenant le postulat de base, Death Note, l'histoire, l'aventure et tout, sont sortis deux livres concernant donc Death Note qui sont des œuvres dérivées, on va dire, hein, des produits dérivés,
des spin-offs
de l'univers de Death Note. Le premier, Death Note, Another Death Note, est signé Nisio Oisin, qui est un scénariste japonais qui a également créé déjà une série. C'est très difficile en plus, si tu vas chercher sur le net et tout, de trouver des infos sur ce mec, quoi. Tu rames comme une bête et tout. Parce qu'en fait, ça ressemble à une expression latine qui veut dire quelque chose et qui est fréquemment employée chez les auteurs classiques latins. Et même dans la littérature un peu plus contemporaine. C'est pour
une spécialité dans cette saga, parce que le scénariste de la série principale Death Note, le nom était également un pseudo et cacherait, semble-t-il, une identité d'un scénariste assez connu.
Ah bon, parce que là, d'après les personnages de l'univers créés par Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, ça c'est les créateurs originaux. De Death Note. Là ça a l'air Nisio Oisin. En plus, tu vois, c'est un palindrome, c'est-à-dire tu peux lire à l'endroit à l'envers, tu prononces pareil, quoi. Ouais. Donc mais pourtant il existe, hein, c'est-à-dire que il est référencé et tout, quoi. Il y a plusieurs sites en japonais entre autres, donc tu piges rien, mais d'accord, il est quand même.
Faudra qu'un jour je t'explique comment on sert d'un traducteur automatique.
et en plus on sait qu'il a commencé à écrire en 2002, hein, c'est dans les pages de garde le quatrième de couverture, enfin sur la couverture amovible, la jaquette du Another Death Note. Il a reçu au Japon le 23e prix Mephisto pour Kubikiri Cycle, le cycle de la décapitation. Ça va, c'est pas mal. C'est un mec qui a des références, quoi.
Qui a été adapté d'ailleurs, il me semble, au cinéma.
Ah, peut-être. Mm. Oui, peut-être, quoi. Ok, comme Death Note d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait.
Ok. Alors, le bouquin est vachement bien. Alors, c'est vachement bien, c'est-à-dire l'objet est absolument magnifique. Et si vous enlevez la jaquette hein, sur laquelle il y a marqué.
Kana a vraiment fait un boulot de ce côté-là.
Eh bien, vous avez la reproduction telle quelle du Death Note.
Ah.
C'est-à-dire, voilà, vous l'avez là, quoi. Ok, quoi. Avec en plus.
Pratique pour
dans
pas
les premières pages, bien des espèces de. D'entrepages qui reproduisent un petit peu le Death Note à l'intérieur.
Pratique si on t'emmerde dans le métro.
Voilà, c'est ça, pratique si on t'emmerde dans le métro. Enfin, bref, déjà, rien que l'objet, pour le fan qui a lu toute la série, qui s'est tapé les séries d'animation, qui est un fan absolu de ce manga, il n'y a pas de problème, quoi. Il prend et ça vaut le coup.
Surtout que c'est même le format de la Black Edition, qui est une réédition
c'est ça.
De la
même,
série.
Même le signé marque-page est marqué Death Note, quoi. Pour dire qu'ils ont vraiment rendu un travail absolument superbe au niveau de la forme. Alors, dans le fond, là, ça se gâte quand même un petit peu en ce qui concerne Another Note. Alors, il faut bien considérer que Another Note, c'est l'affaire bébé. Il en est question dans le Death Note original et tout, parce que, en fait, l'affaire bébé des meurtres en série de Los Angeles est située dans le temps chronologiquement avant Kira et tout le truc et tout, quoi. Donc, parce que ça nous raconte. Surtout, il n'y a pas beaucoup de personnages à l'intérieur, ça nous raconte surtout l'aventure, bien sûr, de L, le plus grand détective du monde, hein, puisque c'est lui qui est le héros principal des deux bouquins qui sont des spin-offs de Death Note originaux, et également la japonaise, la
super mignonne brunette.
La super mignonne brunette qui disparaît à un moment donné et tout, quoi. Qui fait partie du FBI et tout, quoi. Et on sait qu'au départ, Kira se concentre d'abord sur son mari, enfin sur son futur mari, Ray Pember, l'agent du FBI, que Kira va faire crever d'ailleurs, quoi. Death Note original. Elle aussi, on sait pas si elle crève et tout, quoi. Et donc, c'est elle qui est le personnage principal, en fait, de cette aventure, de cette enquête. C'est vraiment une enquête policière, un whodunit, parce que les crimes ont déjà eu lieu. Trois crimes qui ont déjà eu lieu, un quatrième qui doit se commettre, commis par le même mec. Et donc, il s'agit de prévenir le quatrième crime et bien sûr d'arrêter le coupable. Huis clos parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, en fait. Il y a Naomi Mizura, donc l'agent du FBI qui est au Japon là qui est à Los Angeles donc à domicile, qui est suspendu de ses fonctions du FBI et qui est téléguidé par elle pour mener l'enquête. Et donc ça se résume uniquement à aller sur les différents lieux des crimes qui ont déjà été commis et à se poser plein de questions par rapport à ce qui va se passer, aidé en cela par un autre détective qui lui est un détective envoyé soi-disant par envoyé soi-disant par les parents d'un des défunts pour savoir ce qui s'est vraiment passé, et qui est nommé Ryuzaki comme le nom que prend elle dans le Death Note original. Alors déjà on se pose des questions, ça paraît vachement familier pour ceux qui sont des familiers de Death Note, mais par contre ça avance pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'action hein, c'est uniquement des énigmes qui sont posés, c'est uniquement des espèces de raisonnements poussés jusqu'à l'absurde qu'on se doit de comprendre, rentrer dans le cerveau du serial killer, pourquoi fait-il ceci, pourquoi fait-il cela, la disposition des objets selon un certain rite, ça part dans des délires qui sont des fois vraiment tirés par les cheveux. En plus, le narrateur, donc Nishio Ishin, n'hésite pas à intervenir à des moments donnés pour carrément commenter l'action en cours ou faire des rappels par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, parce que là, si l'action est antérieure à l'affaire Kira et tout ça, lui, il dit carrément ce qui se passe avec Kira. Il dit oui, mais on sait que Kira trouvera la mort et tout. Enfin ok, il n'y a plus de problème. Hein, si quelqu'un commence par ça, n'a pas lu Death Note, tout est défloré, il y a circulé, il n'y a plus rien à voir, quoi. Là, de ce côté-là, en induisant le lecteur un petit peu en erreur, parce que en ne. s'introduisant pas au départ comme étant le narrateur, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, c'est un petit peu compliqué, et puis ça fait fausser la route. Donc, l'intérêt, on va dire, littéraire est plus ou moins certain. Bon, c'est sûr que ça va quand même intéresser les gens qui sont des fans absolus de Death Note.
Juste une chose à signaler, c'est vrai que des séries de mangas qui ont bien marché, qui ensuite sont adaptées en romans, ça arrive régulièrement, ça a appelé des romans light, si je me souviens bien. Du terme technique, et en général on prend des auteurs de deuxième niveau, hein, des auteurs de romans de deuxième niveau, on leur dit, ouais, voilà, si tu veux un boulot alimentaire, tu peux écrire un roman par exemple sur Nicky Larson. Il y en a eu, à ma connaissance, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Il y a des romans qui n'ont pas été traduits d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Il y en a aussi sur Cat Size et tout ça. Et donc, ben, ça existe toujours, cette entre guillemets tradition, cette évolution pour maintenir, je veux dire, les fans dans l'histoire et pour leur donner, ouais, un autre support que la BD.
Ouais, ouais, mais enfin, bon, je sais pas si c'est dû aussi à la traduction, mais enfin, bon, le rythme au niveau de la lecture est assez lent et tout, donc, bon, je veux dire, bon, j'ai lu le bouquin, bien sûr, jusqu'au bout, quoi, mais bon, il y a des moments où je me suis forcé et tout pour essayer de rentrer dedans, pour c'est pas actuel.
Kana a une équipe de traduction qui est très très bien rodée actuellement, mais sur la BD, peut-être qu'effectivement,
ouais,
sur le roman, peut-être qu'ils sont pas complètement rodés, mais je pense que c'est peut-être le texte originel. Hein,
N'empêche que, bon, bah, hein, je veux dire, c'est quand même un super objet, c'est un bel objet et tout, il n'y a pas de problème, hein, au niveau bouquin et tout, quoi. Si vous voulez frimer dans la bibliothèque et tout, bon, c'est peut-être pas donné, ça c'est clair, mais si vous voulez frimer dans une bibliothèque, vous foutez ça et tout, là c'est nickel et tout, c'est,
oui, pas si cher,
super classe, hein, de ce côté il n'y a pas de problème. Alors l'autre, eh bien, il y en a un deuxième, donc Elle Changed the World, écrit par M. Alors par contre, sur M, il n'y a rien, on sait rien et tout, et dans une des dernières pages il y a carrément profil de M, ni son sexe ni son âge ne seront divulgués, écrivain de première importance, réputé pour l'audace de son inspiration et sa maîtrise de la composition narrative, participe au projet Elle sur l'invitation du producteur qu'il avait remarqué depuis longtemps, voilà. Alors là, changement radical au niveau de la forme et du fond, parce que là, pochette tout en couleur et tout, avec, bon, bah, t'as vu, papier filigrané, ouais, doré,
ouais,
ça flash et tout.
Couverture fait pareil, dessinateur d'ailleurs.
Pareil, alors bon, encore de nouveau un petit peu l'utilisation du trip cahier, le cahier de la mort et tout, quoi, enfin, dans... Donc c'est pas mal, c'est sympa, et c'est radicalement différent. Pourquoi ? Parce que on sait que, et dans le Death Note original d'ailleurs, elle, qui est le personnage principal, on va dire, de Death Note, le plus grand détective du monde, hein, eh bien, on le voit très statique dans la série Death Note. Dans la série Death Note, bon, ben, on le voit de temps en temps se déplacer, mais d'un endroit à un autre, hein, où il a toutes ces armadas de technologies.
Oui, et puis toujours en train de bouffer aussi.
Toujours en train de bouffer, très sucré. Ouais. Voilà, accroupi. Alors justement, parce que, bon, bah, le fait d'être accroupi avec le menton sur les genoux, ça permet d'avoir 40% de faculté intellectuelle en plus. Enfin bon, tout un trip là-dessus. Et alors, si dans Death Note, Another Death Note, eh bien, il n'apparaît même pas parce que, bah, il téléguide du début jusqu'à la fin Naomi Mizora, donc, pour l'aider à résoudre son enquête. Hein, là par contre ça change carrément, quoi, parce que bon, là elle pratiquement dès le début, eh bien, se balade d'un point à un autre et tout, et bien va participer activement, eh bien, à des fuites, à des courses-poursuites, vraiment comme dans un bon film d'action américain et tout, avec courses-poursuites, carambolage, évasion montgolfière et tout. Enfin bon, t'y crois plus, tu dirais du Spielberg carrément, tellement c'est énorme les moyens. C'est vraiment le bon roman qui mêle l'espionnage, l'aventure, enfin tout ce que tu veux. Et elle, il donne du sien et tout, il se fait blesser, il combat, enfin bon, tu vois, il est actif, quoi. Je veux dire, par rapport aux autres Death Note, au Death Note original où il est vraiment passif, on va dire, bon, bah, intellectuellement, il n'y a pas de problème, il est très actif, super actif, mais bon, physiquement, moi, c'est pas ça. Et là, bah, ça change radicalement, ce qui n'empêche rien, ses capacités intellectuelles qui sont bien entendu mises à l'épreuve dans le livre, c'est normal, hein, c'est toujours le même elle. Et par contre, bah, là, le roman est situé après l'affaire Kira. Et donc, eh bien, tout le monde est au courant des Death Notes. Et justement, eh bien, il va y avoir deux, on va dire, plus ou moins deux affaires, deux aventures parallèles. Tout d'abord, le postulat de base, au départ, c'est que, eh bien, une secte, on va dire, au Japon, une secte au Japon a décidé de piquer un virus et de l'inoculer à toute la Terre et tout, en ayant un message qui est super écologique et tout, en citant, c'est carrément cité, alors là c'est très bien foutu, hein, on dirait carrément un truc écolo qui vient d'un parti qui soit français, japonais ou tout ce que tu veux et tout, avec des positions bien radicales, tu vois, arrêtées et tout, mais qui sont réalistes et qui sont tout à fait logiques et tout. Seulement pour arriver à leur fin, eux ce qu'ils vont faire et tout, c'est qu'ils disent bon, on est 6 milliards, on est trop, donc il faut quand même réduire la population et tout, quoi. Et puis après, bon, bah, on apprendra aux gens à consommer correctement, enfin la totale, tu vois, quoi.
Ouais.
Donc et bon bah ok, pour ces fins, bon bah, ils sont obligés de tuer pas mal de gens et tout. Alors là par contre il y a du sang, ça dégage, ça dépote et tout, on élimine physiquement sans problème, hein, de toutes les façons qui existent pratiquement. C'est assez violent quand même, et parallèlement, eh bien elle, eh bien, officiellement détient encore un Death Note, mais justement, bah, ça va être l'objet également de la convoitise et tout, de certains qui vont pouvoir s'en servir un petit peu comme arme de dissuasion, à l'instar du nucléaire, dont il est assez souvent question d'ailleurs dans le bouquin. Il dit oui, regardez, nous, le nucléaire, ça va tous nous tuer. Enfin bon, ça fait partie du truc qui est un petit peu présent dans le bouquin et tout. Donc, il y a un espèce de climat comme ça, on se dit, bon, on est bien ancré dans le présent et tout, c'est vraiment très actuel, hein, les préoccupations des différents protagonistes consacrant bon, bah, concernant le monde, concernant la politique et tout ça. Et de ce côté-là, c'est vraiment très très bien foutu et tout. Il y a pas de problème. Bon, par contre, c'est assez invraisemblable au niveau des aventures, de ce qui se déroule et tout. Bon, on sent quelques petits points d'humour qui sont vraiment bienvenus et tout, qui retassent un petit peu le rythme et tout, mais ça fait toujours plaisir. Ça se lit avec vachement plus de plaisir et tout. Alors, à signaler que, bon, ben, en plus, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire, et Another Death Note et Change the World sont des bouquins qui sont assez faciles à lire, pas trop longs, parce que, bon, il y a moins de 200 pages, hein, 172, 176, 16 pages pour les bouquins, donc ça va, ça reste correct. Et là, bon, ben, on s'amuse, on passe quand même un bon petit moment dans cette aventure et tout, qui est vraiment un truc. C'est un bon roman d'action, sans problème et tout, avec, bien sûr, les protagonistes qu'on connaît de Another Death Note. Et ce qui va tenir en haleine, surtout dans le livre, eh bien, les fans de Death Note, les fans de tout ça et tout, c'est qu'elle a, je peux le révéler, hein, c'est pas vraiment un spoiler et tout, mais elle, on l'apprend assez tôt et tout, eh bien, a inscrit son propre nom, on apprend qu'elle est son nom véritable à elle, parce qu'on le connaît pas et tout, et il va inscrire son propre nom dans le Death Note, avec un temps imparti, il lui reste 23 jours et tout, avant de mourir, comme c'est marqué dans le Death Note et tout. Ah, suspense. Va-t-il mourir? Tout ça, vous le saurez aussi également. D'autres trucs qui sont développés dans Another Death Note concernant un petit peu les origines de elle, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce que c'est cette organisation et tout. Et d'ailleurs, ça a à voir par rapport à l'aventure de Change the World et tout, parce qu'il y a d'autres protagonistes, eh bien, qui sont plus intimement liés qu'il n'y paraît avec elle, et ça, ben, on l'apprend au fur et à mesure du bouquin. Bref, Change the World, nettement plus conseillé, je dirais, au niveau purement littéraire, on va dire, hein, au niveau de l'aventure et tout ça, quoi. Ça m'a nettement vachement plus plu, hein, que Another Death Note, qui est un petit peu chiant à lire et tout. Donc, et là, c'est pareil, c'est paru chez Kana.
Oui, dans la collection d'Arcana, c'est-à-dire la même collection que les mangas qui sont en cours de réédition.
Voilà.
C'était paru il y a deux mois, voilà. Excusez-nous et tout. Il a fallu un temps pour que je les passe à Dus. Vous écoutez le supplément week-end numéro 257. Nous sommes samedi 13 novembre sur Radio FMR 89.1 MHz. C'est We Have Love avec Ochi. We have love. C'est Hot Chip, We Have Love. Bah voilà, mais en attendant, disais, mais en attendant, We Have Cinema.
Alors aujourd'hui, nous allons parler des Very Bad Cops.
Yeah.
Un film d'Adam McKay avec Mark Wahlberg.
Ouais.
Will Ferrell.
Ouais.
Samuel Jackson.
Ouais.
The Rock.
Ouais.
Eva Mendes.
Ouais.
Michael Keaton.
Yeah.
Et Ray Stevenson.
Yeah.
Alors les inspecteurs Danson et Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. Ils enquêtent, traquent et baisent avec style.
Oh là, bon d'accord, ok.
Non mais ça c'est dans la voix enfin, du film. Adeptes de la manière forte, leurs dommages collatéraux s'élèvent parfois à plusieurs millions de dollars. Mais ça fait rien, avec eux les criminels ne s'en sortent pas.
Ça je veux bien croire.
Leurs coéquipiers les vénèrent, ils se tatouent leur nom, tapent leur rapport à leur place. Pendant une enquête... Il saute du toit d'un immeuble et croit voir des buissons là en bas. Bon, leur mort laisse un grand vide. Leur succession offre au bras cassé du commissariat l'occasion de sortir enfin de l'ombre. Le tireur fou excité Hoyt et Gamble, le gratte-papier, ont leur carte à jouer. C'est vrai qu'on pense jamais au duo de flics secondaires, les équipes bis. Tu sais, ceux qui servent le café, qui supportent les humeurs du duo principal quand il dit « Ouais, non, t'as raison. Non, mais moi, je suis trop un flic excité. Moi, regarde, moi, je te pète le truc et tout. » Puis autour, il y a les flics, « Moi, non, c'est nous qui allons ramasser, qui allons balayer et tout. » Ils remettent en place les fontaines à eau quand le vieil inspecteur essaie de la dégommer en essayant de faire une prise de karaté, qu'il y en a un autre qui lui montre comment faire. Ils prennent des balles perdues lors des prises d'otages. Ils bouclent les entrepôts qui ont servi à des trafics. Tu sais, quand il y a le duo de flics principaux qui disent ah, ouais, non, ça tu me boucles ça parce que nous, il faut qu'on aille sauver la nana prise en otage de la, qui est la sœur de mon coéquipier et tout. Ils ont l'air graves pendant les enterrements des vrais héros. Ils remplissent le bureau du chef lors des super réunions quand l'heure est grave. Et ce sont les figurants, tu sais, en flou derrière, dans le fond, dans les open space du commissariat. On les croise aussi dans les vestiaires, quand ils font la vanne facile. « Hey, Franck, hey, il te faut... »
C'est ceux qui croisent les héros quand les héros, ils parlent dans le couloir aussi, quoi.
Voilà.
En marchant.
Voilà, quand ils vont choper, quand ils vont amener un suspect derrière le panier à salade ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est les duos de flics secondaires, ceux qu'on appelle toujours, qui sont un peu les rivaux. Des rivaux malheureux des héros principaux, mais qui, quand il s'agit de...
Tu veux
de
dire
sauver...
c'est eux qui ont retiré les buissons ?
Oui, quand il s'agit de sauver, de risquer leur peau, ils sont toujours là. Et bien voilà, là, parce qu'en fait, je vous parle de tout ça parce que le titre original de Very Bad Cops est beaucoup plus évocateur, ça s'appelle The Other Guys. C'est mieux.
Bah voilà,
c'est
mieux. Voilà. D'ailleurs, il faut arrêter de traduire les films si c'est pour ne pas les traduire. Quoi.
Et voilà, et donc ça me donne l'occasion de tester votre culture cinéma sur les duos de flics. Et je dis bien uniquement de flics. Alors voilà, ceci est un quiz donc sur les buddy movies. Alors on va commencer par du facile. Alors je vais vous donner le pitch des deux flics et il va falloir que vous me donniez le film et si possible les noms des deux flics.
Oh putain.
Alors, je suis marié et père de famille, mon coéquipier est un tireur d'exception suicidaire.
Ah, l'arme fatale.
L'arme fatale.
Oui, et donc, les deux flics sont...
Bah, Mel Gibson.
Il faut trouver les noms des personnages.
Les noms.
Donc, allez, Martin Riggs et Roger Murtoff.
Oui.
Je suis marié et père de famille, mon coéquipier est dragueur et intérêt et pété de thunes. Nous sommes deux flics noirs.
Ah,
nous
non,
aimons
c'est pas
48
heures,
les.
C'est...
Nous demandons des bonbons à la guimauve.
Kojak.
Hein ?
Kojak, non,
non,
c'est pas un duo. Ouais.
Non, c'est un buddy movie noir. Il y a eu deux épisodes au cinéma.
Bad Guys.
Ah, presque.
Bad Boys.
Bad Boys. What you wanna do, Bad Boys. Donc c'est Mike Lowry et Marcus Burnett. Je suis marié et père de famille. Dégarni et moustachu, mon coéquipier est adepte des arsenals militaires. On se fait servir un léger souper par un flic de Détroit. Je suis moustachu et dégarni, mon coéquipier est un peu plus jeune, adepte de l'arsenal militaire. Il est un peu dur celui-là. Donc ce sont les inspecteurs Taggart et Rosewood. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Ouais, vaguement.
Taggart, c'est une série allemande.
Un duo de flics secondaires qui sont à Beverly Hills. Un flic de Détroit à Beverly Hills.
Ouais, c'est le flic de Beverly
voilà.
Hills.
Voilà. Donc c'est Eddie Murphy qui met les bananes dans le pot d'échappement. Donc c'est le duo de flics qui assiste Eddie Murphy. Je suis désabusé, on me met dans les pattes une tête brûlée qui prend un peu trop goût au surf.
Point Break.
Voilà. Et donc les noms des inspecteurs. Donc Johnny Utah et Angelo Pappas. Ensuite, je suis revenu de tout et j'ai la réplique qui tue. Je n'aime pas les Ferrari repeintes. On me met dans les pattes un jeune boy scout.
Donc inspecteur. La Ferrari repeinte, tu vois dans quel film.
Donc c'est assez facile de trouver plutôt les acteurs. Alors sinon les noms des flics vous diront rien. C'est Nick Pulowski et David Ackerman.
Bah c'est dans James Woods avec Michael J.
Ah non, c'est l'autre, ça c'est La Manière Forte.
La Recrue ou La
Manière Forte. Et non, moi je parlais de La Relève de Clint Eastwood.
La Relève, voilà.
Ah,
Clint Eastwood, c'est vraiment un crime de repeindre sa Ferrari comme ça. Je suis désabusé, moi aussi, et proche de la retraite. Je dois me coltiner me remplaçant sur ma dernière affaire, il pleut des cordes. Et on rigole pas beaucoup, mais pas du tout, du tout, du tout. Nous avons affaire à un gros psychopathe. Ça se finit dans une boîte à carton. Et bon,
oui, mais c'est Seven, oui.
Voilà. Donc David Mills et William Somerset.
J'étais pas sûr parce que dans Seven, je me souvenais plus qu'il pleuvait. Donc.
J'ai de la tchatch et on me met dans les pattes un acrobate venu de Chine.
Ça, c'est avec Chris Tucker et Jet Li.
Jackie Chan. Donc c'est. Rush Hour. Donc les détectives Lee et James Carter. Je viens de New York et sous les palmiers, mon coéquipier est un flambeur adepte des mojitos.
Ah bah ça c'est Miami Vice.
Voilà, donc les noms des inspecteurs.
Tucker et
Ricardo Tubbs et Sonny Crockett.
Ah voilà. Merde,
bravo.
Quel con.
Allez, je n'aime pas beaucoup mon alter ego, mais piégé tout comme moi, il se retrouve dans mes pattes dans un QHS. Dans un quartier de haute sécurité.
Tango et Cash.
Bravo, Ray Tango et Gabe Cash. Alors, qui est Tango, qui est Cash dans le duo d'acteurs Stallone
Tango, c'est Stallone.
Voilà, et Cash, c'est...
Russell.
Voilà. Et le dernier, je suis un petit brun teigneux speed, mon coéquipier est blond et cool. On est toujours à l'affût de bons tuyaux.
Starsky
et Hutch.
Voilà, donc David Starsky et Ken Hutchinson.
Bon, tout ça, c'est rigolo. Mais en fait, t'as fait un résumé du film, t'as fait un pitch, t'as fait tout ça. Seulement, d'habitude, c'est vrai que toi, sur tes chroniques, c'est bien parce qu'on a sur le scénario, le jeu des acteurs, le jeu technique, la mise en scène et tout ça. Et en fait, tu ne l'as toujours pas fait.
Ah oui, tu veux savoir si le film est bien ?
Bah ouais, ce serait quand même intéressant, quoi.
Eh ben non.
Merci. Cette chronique donc de Very Bad Cop d'Adam McKay, présentée par Thomas. Non mais au moins t'as un justificatif ou c'est...
Non
vrai...
c'est de la merde. C'est... Enfin moi je suis pas du tout adepte de l'humour de Will Ferrell, je trouve qu'il me fait pas rire. Et j'ai ri plusieurs fois dans le film et c'était tellement... C'était con en fait que tu ris aux éclats mais tu sais pas... Enfin pas aux éclats mais c'est nerveux en fait. Mais y a le seul gars qui m'a quand même fait rire, c'est que Will Ferrell, donc, il dit qu'il va aller inviter donc, son coéquipier Mark Wahlberg chez lui pour manger, pour discuter de l'enquête autour d'une bonne bouteille de vin. Puis il lui dit, bon, par contre, je te préviens avant, un peu ma femme, elle est un peu roots, quoi. C'est un peu une fille de la campagne. Elle est pas tip-top. Bon, tu m'excuses, hein. Ok. Et donc, Mark Wahlberg entre chez lui. Donc, sa femme, c'est Eva Mendes. Et donc, pendant le dîner, il dit, bon, ah oui, au fait, je t'ai pas présenté Sheila. C'est marrant parce qu'elle s'appelle comme ta femme. Non, mais c'est ma femme. Non, mais sans déconner, vous êtes qui ? Et c'est un gag récurrent. En fait, le film ne fonctionne que sur des gags récurrents. Donc, pendant tout le repas, je dis bien tout le repas, Mark Wahlberg va dire... Non mais sans déconner, vous êtes qui ? Voilà, ça donne un peu l'idée du comique de répétition. C'est tellement décalé et con que c'est même pas rigolo. Michael Keaton incarne un chef de commissariat qui fait deux boulots à mi-temps.
Non, ça va. On a compris.
D'accord.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Non mais on a vu la marque. Bon, maintenant tu peux lancer le
oui, la chronique. Si vous n'avez pas la couleur, vous ne comprenez pas nos blagues. Bah, ce sont des privé jokes.
Ah bah justement de couleur, il en est question dans
la
première série.
Oh quel enchaînement, bravo.
Dans la première série que je vais vous présenter vite fait, à l'occasion en fait du 13e anniversaire de 13e rue.
Ah,
et en plus ça tombait un 13 novembre.
Déjà. Eh ben.
Ouais. Et ils ont commencé à 13h. Ouais, trop cool, quoi.
Ah oui, donc et pile poil, hein, c'est dans 3 minutes alors.
Bah ouais. Donc,
non, même pas. Putain, c'est l'heure.
Quelques petits cadeaux donc qui vous sont proposés par 13ème rue. Un nouvel habillage que j'ai déjà remarqué dans le programme, et, dans le programme papier.
Attention.
Et peut-être bientôt à l'antenne. Ce sera pas dommage et tout, quoi, peut-être. Non plus, quoi, je pense. Parce que bon,
ouais,
il était pas
le logo était un petit peu complexe.
Ouais,
hein,
ouais,
aussi.
C'était un petit peu. Ok. Et donc, à cette occasion, série inédite pratiquement à gogo et tout. Série policière qui a plus ou moins un rapport, on va dire, avec le style. Mais quand même radicalement différente. Tout d'abord, ça commence lundi prochain, donc à 20h35, avec une soirée consacrée justement à ces nouvelles séries. Et en attendant, une troisième nouvelle série
pile,
complètement inédite qui, elle, sera diffusée à partir du début 2011, d'ici un mois et demi. Tout d'abord, c'est Rookie Blue, à l'instar de NYPD Blue, hein, c'est-à-dire la couleur de l'uniforme des flics de New York.
Et rookies, c'est les débutants.
C'est comme en sport, hein, ça veut dire celui qui commence sa carrière donc dans une certaine spécialité, dans un métier. Et on va suivre les aventures d'un groupe de 5 personnages interprétés par Enuka Okuma, Missy Peregrim, Gregory Smith et Travis Milne, qui donc sortent de l'école de police et vont être affectés dans un commissariat et vont commencer à arpenter le bitume. Et donc, désillusion, confrontation à la vraie vie qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter, de côtoyer. Donc ça va donner lieu à quelques petits problèmes. Ça a l'air assez sympathique et tout, pas trop rentre dedans parce que il n'y a même pas de catégorisation moins 10, moins 12 et tout. Donc c'est tout public, ça peut s'avérer quand même un petit peu intéressant. C'est à partir donc de lundi prochain 20h35 jusqu'à 22h55, ça fait quand même 3 épisodes dont le pilote bien entendu qui seront diffusés. Et par contre, deuxième cadeau de 13ème rue, c'est tout juste après les 3 épisodes de Rookie Blue, c'est une autre série inédite qui s'appelle Shattered, interprétée donc par Colm Keith Rennie qui joue le rôle de Ben Sullivan et qui là également est un détective de la police mais qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, autrement dit il a le syndrome de la personnalité multiple quoi. Et donc dans ses enquêtes ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc outre Colm Keith Rennie donc dans le rôle principal, il y a également Camille Sullivan et Ty Olson pour cette série qui est là un petit peu plus sombre on va dire et qui est carrément catégorisée moins 12 depuis le départ. Shattered donc à 22h55 après les 3 épisodes de Rookie Blue, c'est sur 13ème rue à partir de lundi 20h35. Autre série inédite sur Teva, c'est Cougar Town, c'est la nouvelle série de Courteney Cox. Série coproduite d'ailleurs par Courteney Cox et son ex maintenant David Arquette. Ils avaient également coproduit ensemble Dirt, la précédente série de Courteney Cox qui était pas mal. Enfin, la saison 1 était vraiment excellente, mais la saison 2, a tout gâché, c'est dommage.
Ils étaient en pleine séparation.
C'est plus récent la séparation. C'est quand même plus récent. Alors donc Courteney Cox qui est à fond dedans, de toute façon, dans le sujet de cette série Cougar Town, vu que les femmes cougars, ce sont les femmes qui ont dépassé la quarantaine et tout, mais qui sont plus attirées par des petits jeunes de 20 ans, tu vois, un petit peu de la chair fraîche, tout simplement. D'accord. Voilà, donc le postulat de base de cette série qui se veut un petit peu plus proche des sitcoms, c'est un petit peu du Desperate Housewives, mais sans la dimension dramatique et l'intrigue, policière, c'est comme ça, c'est la déconne et tout. Et ça fait plus penser à un truc un petit peu sitcom. Ça s'est diffusé donc par Teva, la chaîne des femmes, bien sûr. C'est normal, c'est une série qui parle de nana. Demain, à partir de 20h35, la mauvaise nouvelle, c'est que Teva, qui aurait bien pu faire les choses et proposer une diffusion un petit peu allégée comme ça, nous passe carrément les 8 premiers épisodes demain soir à partir de 20h35.
C'est pas vrai.
Voilà.
C'est vrai que sur Paris Première aussi, ils font le coup on vous passe 5 épisodes d'un coup.
Mais quand la série a déjà été diffusée, quand il s'agit d'une rediffusion, mais là c'est une diffusion d'une série inédite, donc on se dirait que elle serait traitée avec un petit peu plus de ménagement. C'est pas le cas, dommage. Il faudra compter un petit peu, regarder ça dans le désordre, au hasard des rediffusions qui seront de toute façon inévitables sur Teva. Cougar Town.
Heureusement, il les passe pas dans le désordre, parce qu'il y a eu un scandale quand même hier. Mezzo a passé les symphonies de Tchaïkovski, même pas les épisodes dans l'ordre. Le 2, le 5, le 3 et le 6. C'est un scandale ces chaînes françaises.
Oui, c'est un scandale. Alors donc outre Courteney Cox dans cette série Cougar Town, on a également Buzzy Phillips, Brian Van Holt et Josh Hopkins dans les rôles récurrents. Et évidemment, vu l'agenda de Miss Courteney, il n'y a pas de problème, il y aura d'autres guests un petit peu plus connus, y compris des anciens de Friends, on ne sait jamais. C'est ça, Cougar Town sur Teva à partir de demain soir, 20h35. Et sinon, ce qui a l'air le plus intéressant, mais là c'est sur Orange Cinéchoc, c'est une série anglaise qui s'appelle, britannique, qui s'appelle Misfits, diffusée par une petite chaîne privée anglaise britannique qui s'appelle E4. Je sais pas si tu connais ça.
Si, c'est une filiale de Channel 4.
Voilà, donc
C'est plutôt tendance pour ados, et c'est là où ils passent toutes les téléréalités d'ailleurs.
Voilà, c'est pour ados, et ça concerne d'ailleurs des ados, car le sujet principal de Misfits, c'est l'histoire de 5 ados qui sont plus ou moins des petits délinquants, vraiment pas des gros nymphes, mais qui ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Et donc, durant ces travaux d'intérêt généraux, ils vont être touchés par la foudre, et en fait, la foudre va leur donner des super pouvoirs qui sont liés à leur tempérament de base. Et donc voilà quel est le pitch de ces Misfits, dont la première saison ne fait que six épisodes. La deuxième saison est en cours de tournage et la chaîne a déjà payé pour la troisième saison. Mmh. Tu vois, pour dire que ça a cartonné.
Elle a démarré assez vite puisque je crois que c'est en avril dernier qu'elle
voilà,
a été diffusée.
Voilà, ouais, c'est tout récent, et ça atterrit donc sur Orange Cinéchoc. Et comme un con, je me suis arrêté d'écrire et tout, et je peux même pas vous dire quel jour c'est diffusé. Et ça peut remarquer Orange Cinéchoc, donc pour cette série qui s'appelle Les Misfits.
C'était sur le château de...
Non, mais on a très probablement... on a très peu de probabilité qu'on ait un audi spectateur qui soit abonné à Orange. Donc.
Oui, on sait jamais, de toute façon. Donc,
je parlais aux chaînes cinéma d'Orange.
C'est pour toi. Le seul auditeur qui a Orange.
Oui.
Allez, on termine avec quelques... Oh putain, mais je vais terminer en avance là, c'est super cool.
Ah bah oui, non mais on l'a fait pour toi.
Ah nickel. Alors
et Suzanne qui est pas là.
Et Suzanne est pas là? Si.
Non.
Bah elle est pas encore
bah,
là.
Non, elle est pas là.
Bon, elle va arriver. On verra quoi de toute façon. Des films donc avec tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Tout et n'importe quoi aujourd'hui. Sur Syfy, qui fait vraiment tout et n'importe quoi, parce que tu trouves vraiment plus de trucs bien sur Syfy. C'est la chaîne qui est quand même sponsorisée par une grande chaîne américaine. Alors on se disait, ils ont quand même des fonds de tiroirs, des trucs intéressants.
C'est Universal comme 13ème rue.
Ouais, c'est ça. Mais bon, là vraiment, c'est que du téléfilm avec du téléfilm de dub avec de la série. Que j'apprécie pas particulièrement, qui est plus ou moins de seconde catégorie, tu vois, qui est pas franchement un échec. Je sais pas quoi. C'est désolant quoi. C'est devenu désolant depuis quelques temps.
Pas
Syfy,
de nom.
Quoi.
D'accord.
Donc voilà quoi. C'est pas top quoi. Alors donc, ça nous fait quand même plaisir parce qu'il nous passe quelques bons nanars. Ah. Tu vois, donc de ce côté-là, d'accord quoi. Mais il y a que ça. Il y a plus de trucs vraiment nickel. Ce soir déjà 22h. La rediffusion de Mega Piranha de Eric Forsberg avec Paul Logan, Barry Williams et Tiffany. Vous savez, ce Piranha qui part de Guyane et qui va jusqu'en Floride. Alors, sinon, sur AB1, on a autre chose qui a l'air d'être quand même un petit peu plus sérieux, mais toujours qui boxe dans la même
catégorie. Sur
AB1,
attends, c'est de l'humour là.
À 20h40, priorité absolue de John Terleski, qui est lui un faiseur confirmé de la télé. Alors lui, il a réalisé des épisodes dans, un nombre incroyable de séries, et dans de bonnes séries. Hein. Donc c'est pas un tâcheron le mec, il sait quand même y faire. C'est un téléfilm qui date de 2000, avec Roy Scheider et Patrick Muldoon. Ils doivent sauver le président des États-Unis, sinon le monde entier va exploser. Alors du côté de Roy Scheider, on connaît, lui il a déjà sauvé les plagistes des requins, donc c'est cool. Patrick Muldoon, lui, a sauvé pratiquement le monde de tous les dangers possibles et imaginables dans sa carrière, donc de ce côté là le président est super surveillé. Dans priorité absolue, c'est sur AB1 ce soir à 20h40.
Dommage, sinon, il est arrivé trop tard.
Sinon ce soir sur Disney Cinemagic, alors là y a rien à dire, c'est super, c'est magnifique. C'est là-haut, le dessin animé de Pete Lecter, le docteur.
Sortez les mouchoirs.
Là, non, mais c'est vraiment bien. Quoi, de toute façon, sinon, sur TCM, alors à minuit, Les Diables de Guadalcanal de Nicolas Ray avec John Wayne. C'est dans la thématique John Wayne sur TCM. Mais outre John Wayne, il y a également Robert Ryan, et Don Taylor, ainsi que Janice Carter pour la fibre féminine. Mais enfin bon, faut dire que... Tu la vois pas souvent, c'est un film de guerre là, pas de problème. Alors,
je crois que j'ai rêvé cette nuit je voyais John Wayne et je me suis dit, tiens, c'est pas un shérif. Ça m'a marqué tes chroniques, t'as vu ça?
Ah ouais, non, il a fait des films de guerre aussi. Et celui-là est pas mal en plus quoi. Ensuite, sur FX ce soir, et là c'est peut-être le meilleur film en fait de la soirée, c'est Le Loup de la Nuit de Daniel Petri en 72 avec David Johnson et Brad Dillman. David Johnson, vous connaissez bien entendu, tout le monde connaît David Johnson. Peut-être pas pour son premier rôle qui lui a valu le succès aux États-Unis, cette série policière qui s'appelle Richard Diamond de 1957 à 1960, mais plutôt à partir de 63 pour son rôle du professeur Kimball dans la série Le Fugitif, bien entendu, pour lequel il obtient un Golden Globe en 66. Pas n'importe quoi, et pour lequel, à l'occasion du dernier 120e épisode, le 29 août 67, ça a été le record, la meilleure audience télé, jusqu'en 1980, où il a fallu attendre l'épisode marquant de savoir dans Dallas qui avait tiré sur JR.
Ça avait tenu aussi longtemps.
Ça avait tenu aussi longtemps, pour te dire. Et là, David Johnson, il joue dans ce film. qui a pas l'air trop dégueulasse, franchement, hein, et qui parle bien entendu de loup-garou et David Janssen, c'est le gentil, bien sûr, c'est le shérif de la ville. Sinon, ça c'est ce soir sur FX à 21h, le loup de la nuit de Daniel Petri avec David Janssen. Demain sur Energy 12, Cartouche de Philippe de Broca en 62. Ouais, bon film de KPDP avec un Jean-Paul Belmondo en pleine forme, une Claudia Cardinal en pleine forme,
au pluriel.
Jean Rochefort en pleine jeunesse. Il y a également Jason, c'est l'acteur allemand qu'on faisait jouer toujours tous les rôles avec un accent anglais, un truc comme ça. Il y a toujours un accent, hein, de toute façon, ça fait partie des personnages qu'on lui fait jouer dans le cinéma français des années 50 et 60. Et surtout, Marcel Dalliot, énorme Marcel Dalliot, 1899-1983, né Blauschild. Hein, donc le bouclier bleu, en fait, et Marcel Dalliot, qui lui, sa carrière, elle est une meilleure carrière que ça, tu peux pas. C'est pas possible et tout. D'accord, que du second rôle et tout, rarement un rôle principal et tout, si quand même, quoi. Mais il était partout et il a vu tout ce que le cinéma a pu produire de meilleur depuis les années 30, depuis le début des années 30. En 35, il est dans Le Golem de Duvivier. En 36, l'année suivante, Pépé le Moko. En 37, La Grande Illusion. En 39, La Règle du Jeu de Renoir. En 42, Shanghai Gesture de Sternberg. En 43, Casablanca de Michael Curtis. C'est lui le barman, enfin c'est le patron du bar dans Casablanca avec Bogart. Bogart qui retrouve dans Le Port dans l'Angoisse l'année suivante de Howard Hawks, To Have or To Have Not, le film où Bogart rencontre Lorraine Bacall. Ensuite, on le voit en 54 dans Sabrina de Wilder, dans Razzia sur la Schnouf de Coin. Dans les années 60, alors là, il tourne un petit peu avec n'importe qui. John Huston, Broca, Lautner, Wilder, ouais, Becker, Autant Lara, Verneuil. Et bah, il termine sa carrière dans les années 70 et tout, en tant que petit vieux et tout, quoi, pour la personnalité qu'il est, pour l'acteur qu'il est, acteur consacré, à savoir dans Arabe Jacob, dans Que la fête commence de Tavernier, le premier film de Tavernier en 74, L'aile et la cuisse, il fait également une apparition en 77. Eh ben ouais. Et termine sa carrière par un super bon nanar vaudou sur les Caraïbes, le Monnier. Ça, c'est une super carrière, c'est Marcel Dalliot. N'oubliez pas, en plus, vu sa prononce, vu son aspect physique, on lui faisait toujours jouer des rôles de personnages louches, de métèques, avec l'accent bien forcé et tout, excellent acteur de toute façon. Donc vous pouvez revoir dans Cartouche de Philippe Broca sur NRJ 12 demain soir. C'est le seul film que je vous conseille pour demain soir, en plus, hein, tu vois, vu le full frontal qui est entre TF1 et Antenne 2, France 2, laisse tomber, quoi, c'est pas la peine. Lundi, et là c'est la bonne surprise quand même, c'est que Arte nous programme Affaires privées de Mike Figgis, qui est pratiquement autant que je me souvienne, le dernier bon film de Mike Figgis. Peut-être.
Non, il a fait celui avec Wesley Snipes et Natasha Kinski là, qui était pas mal. Je sais plus comment il s'appelle.
Tu as raison. Ouais, mais pas aussi bien que celui-là où vraiment Richard Rigir, c'est peut-être également l'un de ses derniers bons rôles aussi, quoi. Et bien sûr Andy Garcia, William Baldwin, Nancy Travis, Laurie Metcalf et tout. Enfin, un super petit polar et tout qui préfigure, parce que je crois qu'il est antérieur à Copland de James Mangold et tout, qui est un petit peu dans le même registre, on va dire, hein, c'est-à-dire c'est le côté sombre des flics, et là c'est assez bien mené quand même. Et sinon sur FX, alors là c'est une, pour ceux qui aiment bien le cinéma, pas d'horreur, mais fantastique, là c'est vraiment un excellent film fantastique, c'est Harlequin de Simon Windsor en 80, avec Robert Powell et Carmen Duncan et tout, l'histoire d'un espèce de parapsychologue, magicien et tout, qui va mettre sous sa coupe une famille et tout.
Il n'avait pas été primé à Voriaz.
Et je pense que ça a été un des grands prix d'Avoriaz. Ouais. Je ne voudrais pas le jurer, mais c'est absolument excellent. C'est sur CinéFX, lundi à 21h. Mardi sur Sci-Fi, de nouveau à 22h25. Alors là, c'est pour regarder, si vous ne l'avez pas vu, jeter un coup d'œil, ça vaut le coup et tout. C'est le Stonehenge Apocalypse de Paul Ziller, où il y a Hill Harper. Alors Hill Harper, je ne l'ai pas vu dedans, mais je n'ai pas regardé tout le truc parce que il faut quand même pas déconner, quoi. Misha Chilero, Tori Higginson et Peter Wingfield. Alors Peter Wingfield et tout, là, il est vraiment statique puisqu'il est toujours derrière la console et tout. T'as les scientifiques qui s'agitent devant leur ordinateur et lui, c'est lui qui dispatche le truc. Il dit oui, là, pousse un petit peu le machin et tout. Il fait
pousse,
que ça, tu vois.
Le
quoi.
Bouton.
Il est bien costume, cravate, tout tranquille et tout. Bon, c'est Peter Wingfield, tu vois, quoi. C'est lui le chef, quoi. Alors bon, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas beaucoup d'action et tout, quoi. Et puis, ils n'auraient pas dû bouger les pierres de Stonehenge, tout simplement. Il n'y aurait pas eu le bordel comme ça. Donc, c'est sur six films. mardi à 22h25, Stone Age Apocalypse. Et sinon, sur FX à 21h, Terreur extraterrestre de Gary Clark avec en 80, donc avec Tara Nutter, mais surtout avec deux grandes super gueules du cinéma, Jack Palance tout d'abord et Martin Landau, qui vont essayer de sauver la Terre parce que bon, bah, y a des aliens qui veulent envahir la Terre, comme d'habitude.
Les pauvres.
Et bah, avec Jack Palance et Martin Landau, c'est pas évident, quoi. Mercredi sur NT1, et là, ça va être magnifique, je le pense. Marié à jamais, et c'est pas vraiment du style amour, gloire et beauté comme le titre pourrait laisser paraître, pas du tout, non, c'est plutôt une déclinaison de polar qui, dans lesquels eh bien, les jeunes mariés sont systématiquement assassinés, dégommés et tout, quoi. Donc bon, voilà un petit peu, et c'est un téléfilm à rallonge, mais qui est réalisé par un certain Russell Mulcahy, dans 2003 avec Jill Bellows, Tracy Pollan, Angie Everhart, Sean Young, Carly Pope.
Ah ouais,
bon, il y a quand même,
ouais, quand
du,
même
bon,
y a du lourd.
Il y a du lourd, hein, de toute façon. Hein, c'est sur NT1 mercredi. Mais par contre, eh bien, c'est un téléfilm de partie, enfin deux fois téléfilm, donc de 20h35 jusqu'à minuit 5 pour Marier à jamais de Russell Mulcahy avec Jill Bellows sur NT1. Pardon, c'est mercredi prochain. Sinon, eh ben, c'est une curiosité à laquelle on jettera un petit coup d'œil sur TF6 mercredi prochain à 20h40. Kung Fu Killer de Philip Spink en 2008, donc c'est assez récent,
ah ouais,
avec David Carradine, donc juste avant qu'il crève,
ouais,
et Daryl Hannah, juste pas avant qu'elle crève non plus, mais enfin bon, voilà. Mais également la participation d'autochtones, vu que ça se déroule là-bas, du côté de Hong Kong, Lim Koi Tong et Lim Yu Peng, pour ce Kung Fu Killer mercredi prochain sur TF6. À 20h40.
Il y a Bruce qui est passé, c'est dommage, il a pas écouté le début, et en plus, ça aurait été l'occasion d'annoncer quelque chose de... peut-être avant la fin de l'émission, on verra.
Ouais,
t'inquiète.
Jeudi, on continue avec sur NT1, toujours, c'est la chaîne de la semaine, hein, NT1, quoi.
Ils sont passés en 16-9, c'était 20, la dernière chaîne.
Ouais, à 22h25, Échec et mort de Bruce Malmoth, avec Steven Seagal, Kelly LeBrock et William Salader et tout. Ouh, c'est pas mal, c'est le coup où il tombe dans les pommes et tout, puis il se réveille, et il est dans le coma et tout, tu sais, il est tout barbu comme ça et tout, puis il revient, il va se venger. Non,
Steven Seagal barbu.
Oui. Mais si,
j'ai pas vu ça.
Si, c'est très facile. Suffit qu'il se rase pas les poils.
Ben ouais.
Non, c'est pas le principe, hein, en même temps.
Ouais.
Ah,
ou alors, en même temps, à 22h45 sur 13ème rue, mais là c'est plus dispensable parce que c'est quand même 18 ans plus tard. Donc récent 2008, hein, puisque Échec et mort date de 90, et c'est également Steven Seagal.
Oula.
Alors là, bon, ça se gâte un petit peu, surtout qu'il est également avec Isaac Hayes, donc qui allait juste faire le film puis disparaître
Isaac
Hayes est décédé depuis 2008 et tout, donc bon, un petit peu plus dispensable, donc sur 13ème rue. Échec et mort, c'est quand même vachement mieux. Hein.
Et donc, il s'appelle comment le nouveau?
Killing Point.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Jeudi toujours, là c'est quand même du plus regardable, de toute façon c'est sur cinéma classique à 20h40, L'Esclave Libre de Raoul Walsh en 57, une bonne histoire concernant la guerre de sécession, mais qui sont au sud avec Yvonne De Carlo, Clark Gable, Sidney Poitier et
Clark Frem... Gable.
Pour une fois, ouais. c'est pas moi.
Toujours Sidney Poitier. tu dis pas Poitier.
Clark, hein? Gable.
Clark Gable.
Comme le chat.
Ephraim Zibaliste Junior, bien entendu, dans cet Esclave Libre de Raoul Walsh en 57. Et c'est une soirée Raoul Walsh parce que après l'Esclave Libre, à 22h45, il diffusait Les Faubourgs de New York, un des premiers Raoul Walsh en 33 avec Wallace Beery, George Raft, Jackie Cooper,
Raoul Walsh avait d'abord fait des films muets.
Oui, non, mais un des premiers des parlants, quoi.
Ah, d'accord, ok.
Oui. Oui. Dans le cinéma parlant.
Non, parce que sur TCM, y a en ce moment, ils sont en train de diffuser un excellent documentaire d'1h40 d'ailleurs sur les films de la Warner. Comme quoi, la Warner, c'était le seul producteur à vouloir faire des films de bandits, justement. Et Raoul Walsh avait fait ses premiers films dans les quartiers de New York avec des vrais bandits.
Oui, non, mais en plus, c'est dans ce film, si tu veux, quoi, c'est un petit peu le début de la popularité de George Raft et tout, quoi, qui lui a toujours c'était sa marque de fabrique, jouer des rôles de gangsters et tout le bordel et tout, il les fréquentait dans la vie, enfin bon, voilà, ou Wallace Berry encore, là, il était dans la force de l'âge et tout, et il y avait surtout la vedette féminine, Faye Ray, qui était l'une des actrices qui était la plus connue à l'époque, hein, qui était à l'égal des autres grandes de l'époque, pour sa participation, bien sûr, dans King Kong. Hein, c'est elle, la fille, qui est dans le truc de King Kong, la version originale. Ou sinon, jeudi, il y a également un bon film fantastique, on va appeler ça comme ça, parce que bon, c'est un peu porte-à-voix et tout, mais c'est assez rigolo quand même. C'est Le Commando des Morts-Vivants de Ken Widerhorn en 77 avec Clarence Thomas et John Carradine et tout, quoi, où un bateau s'échoue sur une île et tout, où un savant fou eh bien, a réussi à ressusciter des soldats nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout, quoi.
Sachant qu'il y a eu un remake qui a été fait par Edvy France après, qui a été une vraie catastrophe,
ça
encore plus mauvais.
Ça doit être la version avec Peter Cushing. Là,
oui, oui. Ouais, tout à fait. Malheureusement, il n'y a que la seule pellicule qui reste, c'est tellement bruité et tout que c'est un peu dommage. On perd la qualité du loupage des effets spéciaux.
Aïe.
Bon, de toute façon, il est très loupable ce film.
Oui, tout à fait.
Comme c'est bien.
Indispensable.
Vendredi sur RTL9 à 23h, The Restless de Dong Hu Cho en 2006 avec Yoon Ho Heo, Woo Song Jung et Tae Hee Kim. Le film se passe dans la Corée.
C'est un autre acteur que je connais pas, ça.
Ouais, mais moi non plus. Tae Hee Kim, ça me dit quelque chose, quoi, mais bon, vaguement, quoi, tu vois.
J'ai toujours du mal à le prononcer.
Ça se passe dans la Corée du. C'est un film coréen, donc. Et ça se passe dans la Corée au 9e siècle après des battles pas possibles et tout, quoi, notre héros va se trouver catapulté dans l'entre-deux mondes et tout, quoi, il sait plus où il est parce que bon, il y a l'histoire de force magique, tout le bordel, enfin bon, un film de sabre, de fantômes, de légendes et tout ce que tu veux et tout, quoi, ça a voulu être une super production et tout, le résultat est un petit peu mitigé, donc The Restless sur RTL9. À juger sur pièce vendredi prochain à 23h. Sinon sur Sci-Fi, ah oui, là c'est pas mal, c'est sympathique, ça vaut le coup. C'est un peu gentil, on va dire. Excusez-moi. C'est L'île aux sorciers de Nikolaj Ansel. C'est une coproduction suédo-danoise avec Sarah Langenbach dans le rôle principal et surtout Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen, quand on se souvient de son rôle dans la série For Bridelsen. Ah, t'as vu, je vais parler d'Aldoin maintenant.
C'est bien.
Ah ouais, cool, quoi. Donc c'est pas mal, c'est sympathique, ça se laisse regarder et tout. C'est plutôt genre tripado, on va dire, et tout. Genre, ça vise du côté Harry Potter, Narnia, enfin, tu vois, des trucs comme ça et tout. C'est gentil, ça fait un petit peu peur et tout. Mais sans plus. Et c'est assez bien foutu quand même. C'est sur Sci-Fi, donc vendredi prochain à 20h45. Et on termine.
Tu vas y arriver.
Ouais, la chaîne Action.
C'est bientôt fini, vas-y.
Ouais, c'est le dernier. Vendredi prochain, 21h. C'est une soirée Joseph M. Newman. Un monsieur qui est surtout connu pour son film fantastique réalisé en 55, Les survivants de l'infini, This Island Earth. Et un nanar, enfin bon, d'excellente facture et tout, que tous les cinéastes férus de fantastique ou les cinéastes qui font du fantastique ou de la science-fiction et tout révèrent, qui ont la prunelle de leurs yeux. Il a également fait plus de films, beaucoup de films western, hein, Joseph M. Newman, tels que Jungle Patrol en 49, Outcast at Poker Hat, là c'est les Bannis de la Sierra en 52, Big Circus, ça c'est sur un cirque en 59, il a fait sa version de Tarzan avec Tarzan de Ape Man en 59, et également Thunder of Drums en 61, mais si vous rappelez-vous, Tonnerre Apache quand même, ah bah oui, c'est lui, c'est Joseph M. Newman. Et là il nous propose donc sur Action, vendredi prochain 21h, Gunfight at Dodge City, traduit en français par Le Shérif au Moins Rouge, mais c'est l'occasion de voir Joel McCrey. Ah ouais, Joel McCrey quand même. Et également John Julie Adams et John McIntyre. Et c'est Joseph Newman qui nous fait également Fort Massacre en 58, dont la diffusion est programmée juste après Le Shérif aux Mains Rouges, vendredi prochain sur la chaîne Action. Le Fort Massacre à 22h20 et Le Shérif aux Mains Rouges de Joseph M. Newman à 21h. Voilà, c'est tout.
Ouais, et avant que l'on fasse le résumé et tout ça, Thomas, tu me fais des infidélités ?
Ouais.
Voilà.
Non, mais je trouvais que ça manquait de couilles ici, alors je suis allé rejoindre Barbu.
C'est vrai, il faut en parler.
Donc, mardi.
Ils ont aussi une femelle. Hein.
Donc, mardi. Partagez à mi-temps par Donc, mardi prochain à midi, l'émission Cinécure qui est sur FMR de midi à 13h reçoit donc Franck Lubé et Professeur Thibault à l'occasion du festival Extrême Cinéma. Et
c'est
donc...
plus en. C'est plus en avril, mais maintenant c'est.
Mais il y avait deux versions quoi, en principe quoi.
Je sais pas où c'est qu'ils en sont. Enfin, ils programment ça un peu en bouche-trou, j'ai l'impression.
Donc, bref, j'irai faire un tour là, dans l'émission pour voir si l'herbe est plus verte sur d'autres micros.
De toute façon, t'es pas là samedi prochain en plus.
Voilà.
Bruce, tu l'as payé combien pour qu'il vienne ?
Des DVD thaïlandais, non ?
Ouais, thaïlandais, gore, sexe, pédophile. J'ai pu lui offrir ça pour qu'il vienne. Voilà, un truc comme ça.
C'est sympa, merci beaucoup.
Ouais, je t'en prie.
Bah, tiens, puisque t'as l'affiche sous les yeux, hop. Tu vas lire le texte qui est souligné en vert.
Si. Je lis pas, je sais pas lire moi.
Et t'oublie pas de marquer le temps d'arrêt là où il y a un gros trait.
Ah, là. Nom d'une gentillesse, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. Je m'en fous, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR 89.1. Nous sommes en direct en alternance avec Radio Booster et on continue sur www.radio-fr.net et je vous emmerde.
Bon, eh ben laisse faire les pros. Nom d'une gentillesse, Thomas, ils ont manqué tout ça puisque c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'ils ont manqué donc ?
Eh ben ils ont manqué du fake avec Michael Jackson, Lotus Bleu, Bernard Laporte, des petits gars relookés, des spin-offs du livre de la mort des autres gars, un quiz buddy movie, 13 ans de 13ème rue, la némésis de Jem et les hologrammes, du méga piranha Globetrotter, une super carrière qui finit dans le vaudou. Fallait pas bouger les pierres de Stonehenge, Steven Seagal barbu, Clark Gableux, du bordel dans l'entre-demande et du sport qui parle danois.
Bah voilà.
Steven Seagal barbu ?
Et oui. N'oubliez...
Non.
Et vous pouvez retrouver cette émission du Supplément Week-end et les précédentes, ainsi que nos chroniques écrites, comme par exemple la chronique des BD Orbital numéro 4, Savior, Deadman Wonderland, tome 1 et 2, Tortuga, mais aussi une introduction à Bill Monroe. Ah non, ça c'est l'émission du sport tout à l'heure. Et un clip musical de scène Wednesday où il fait d'ailleurs une grosse allusion à District 9, qui est pas mauvais du tout. La semaine prochaine... Thomas, tu n'es pas là, mais on va parler parler en fait d'un chef d'une mafia française qui s'en est très bien sorti de l'occupation.
Et alors, c'est marrant parce que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que Bruce, quand il est arrivé, il a regardé le DVD Breaking News et il a fait le geste de Michael Jackson. C'était celui-là.
Ouais, non, mais je vais expliquer la blague qu'il a manqué et tout. Voilà. De suite du sport, ciao, bye bye, et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mais sans Thomas du coup, ciao.